explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac!
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
L'écrivain Herman Melville, dans son roman Moby Dick, nous l'a présenté comme un animal féroce et hargneux. Mais le cachalot mérite-t-il vraiment cette réputation? Pour le plongeur François Sarano, la réponse ne fait aucun doute. Pour lui, l'heure est venue de lever ce malentendu et de se réconcilier avec ce géant des mers. Depuis plusieurs années, il part observer avec des scientifiques des clans de cachalots au large de l'île Maurice. Sans crainte, il plonge au milieu de ces animaux qui peuvent atteindre 40 tonnes. Des géants on ne peut plus paisibles qu'il prend le temps de côtoyer. En les observant, il va de découverte en découverte. Ces animaux sont des mammifères, ne l'oublions pas. Leurs comportements sociaux sont bien plus proches des nôtres que de ceux des poissons. Aujourd'hui, François Sarano vient partager les découvertes les plus récentes qu'il a faites et les moments inoubliables qu'il a vécus lors de ses plongées dans le royaume de Moby Dick.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour François Sarano.
Bonjour Daniel.
Vous êtes océanographe, plongeur, ancien compagnon de bord du commandant Cousteau. En septembre paraîtra aux éditions Actes Sud un très bel ouvrage intitulé Le retour de Moby Dick, consacré donc aux cachalots et aux études scientifiques auxquelles vous avez participé sur ce grand mammifère marin. Vous allez nous raconter vos plongées avec les cachalots et puis les plus récentes découvertes réalisées à leur sujet. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Et puis à 17h, nous ferons connaissance avec une artiste, Emeline Landon, peintre, écrivaine. Elle a effectué un tour du monde en porte-conteneur. Elle nous racontera ce voyage de 3 mois effectué comme unique passagère sur ce cargo gigantesque transportant des tonnes de marchandises à travers les océans du monde. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Camille Bernard et Hugo Struna.
Pas gagné, hein, s'il a du mal. Mais c'est toujours le premier clic qui est difficile à discerner, parce que au milieu du clapot du bateau, quand on te dit il y est là, tu saisis le clic. Et après, tu les entends. Tu y arrives, tandis que là, le premier est très difficile. J'entends bien ?
Ouais, t'entends bien là, ouais.
Ah bon, oui. Oh, c'est le concert, là. Tac, 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 tac. Là, c'est super. Hein.
Ils sont loin ? Je dirais au moins 8 km.
Nous étions au large de l'île Maurice, François Sarano. Ils ont beau être gros, ces cachalots, ils ne sont pas si faciles que ça à retrouver dans l'immensité de l'océan.
Et non, ils sont pas faciles à retrouver dans l'immensité de l'océan, ces géants. Parce qu'ils passent 18 heures par jour dans les profondeurs, à plusieurs centaines de mètres, à chasser les calmars. Alors quand nous partons, que nous sortons au-delà du récif, que nous nous retrouvons en pleine mer, il faut soit attendre qu'ils remontent en surface et qu'on voit leur souffle extraordinaire, et alors tout le monde s'enthousiasme, ou alors que nous immergions un hydrophone, un microphone étanche, et que nous écoutions leur... C'est leur clic, leur claquement qu'ils émettent pour percevoir leur environnement. Ouais. Ils émettent ces claquements partent dans le milieu, dans l'épaisseur liquide, et vont rebondir sur les obstacles, les calmars. Et comme donc ils vont utiliser cet écho, ce rebond, pour percevoir le lieu, la forme de l'obstacle qui est en face d'eux. Ouais. Et ainsi, ils chassent dans la nuit des profondeurs, sans y voir, avec une précision extrême.
Mais extrême, même plus extrême que ne le feraient nos yeux, parce que ça leur permet de sonder même en profondeur. C'est-à-dire, vous dites, ils peuvent savoir, par exemple, l'épaisseur de la coque d'un bateau, avec leur clic, ils arrivent à pénétrer l'intérieur des choses.
peut-être pas tout à fait pénétrer, mais en tout cas certainement savoir si c'est plein ou creux. Ouais. Et lorsqu'il s'agit d'un organisme vivant, comme une échographie, ouais, ils arrivent à pénétrer dans les tissus et à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ils peuvent moduler l'émission sonore, moduler la fréquence, moduler son intensité. Et probablement leur analyse est aussi fine que celle que pourrait faire un médecin avec un engin aussi sophistiqué, ouais, qu'un échographe.
François Sarano, vous nous rappelez à quoi ça ressemble un cachalot? On n'est pas en train de parler des orques, on n'est pas en train de parler des baleines, on est en train de parler des cachalots. À quoi ça ressemble?
À rien. Un cachalot, vraiment, ça ressemble à rien. Une énorme tête parallélépipédique qui fait un tiers du corps. Ouais. Énorme. Et puis après, un corps qui se termine par une queue plate, large, 3-4 mètres d'envergure. Pas de nageoire pectorale, sorte de petit moignon. Cette tête parallélépipédique, toujours énorme, n'a qu'une toute petite mandibule. Sa mâchoire inférieure est ridicule. Elle forme comme un petit V blanchâtre qu'on aperçoit de loin. Et puis, ce qui le caractérise vraiment, c'est cette énorme bulbe qui est à l'avant, mmh, et qui porte la narine. Il n'a qu'une narine fonctionnelle. Nous respirons avec deux narines. Les baleines respirent avec deux narines. Hein. Leur évent, c'est deux orifices. Oui. Alors que le cachalot n'en a qu'un de fonctionnel, celui qui lui permet de respirer, et l'autre, le droit, est obstrué et sert justement à l'émission de ces clics mystérieux qui servent à l'écholocation et à la communication.
Et oui, on aura évidemment l'occasion d'en parler, de ces mystérieux clics qui leur permettent de dialoguer entre eux. Vous vous souvenez, vous, de votre première rencontre avec les cachalots, François Sarano?
Alors la toute première, c'est en 1987, on est à bord de la Calypso. J'avais préparé l'expédition avec ma femme Véronique et nous avions vu qu'il y avait des cachalots dans la région de Kaikoura, qui est la pointe, la petite pointe sur l'île du Sud, là, une petite pointe particulière, un cap où les cachalots se rassemblent. Je répète, c'est 1986-1987, attention, la chasse vient juste de se terminer. Personne ne nage avec les cachalots. Hein. Le grand massacre a eu lieu, il reste à peine un tiers des populations. Tous les mammifères marins, et cachalots y compris, fuient les bateaux. Personne, ouais, encore une fois. Ouais. C'est une autre époque aujourd'hui, c'est plus simple de nager avec ces grands animaux qui nous acceptent. Ouais. Et là, de loin, avec la Calypso, on aperçoit les souffles et nous partons en zodiaque vers ces animaux fabuleux. Là, nous allons à la rencontre de Moby Dick.
Ah oui, à ce moment-là,
ce sont des grands mâles.
Vous aviez peur vous-même à ce moment-là?
Ah non, on est dans une autre dynamique. Et ouais, puis quand on était à bord de Calypso, l'équipe, Cousteau, Bébert, tout ça, Bébert, Albert Falco, ouais, c'est le plus grand plongeur de tous les temps. On n'avait que de l'enthousiasme, ouais, vraiment, la gourmandise d'y aller. Mais nous étions maladroits. Nous étions très maladroits.
Pourquoi?
Et parce que on partait à la conquête des animaux. On n'avait pas compris qu'il fallait plus de respect, plus de déférence, ouais, plus d'humilité. On était un peu arrogant.
Hein. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la démarche. On attend qu'ils nous accordent une audience.
Voilà. Mais c'est ça qui change tout. Et nous apercevons que ces animaux sont aussi curieux de nous, ouais, que nous sommes curieux d'eux. Et ce décentrement, essayer de voir le monde à travers leurs yeux, parce qu'il nous permet d'être cachalots parmi les cachalots, parce qu'il nous accepte, parce qu'il nous y invite, change radicalement la chose. Mmh. Alors que sur Calypso, faut bien dire une chose, était un peu le rodéo. Oui. Et donc on fonce avec Bertrand Sion, le chef plongeur de l'époque, un grand ami, on fonce vers les cachalots, et puis bing bang, on se met à l'eau, on voit un grand cachalot qui passe et puis il a disparu. Alors, aujourd'hui, on aurait fait autrement. Mais à cette époque-là, on ne savait pas. C'est ça qui est merveilleux. On a beaucoup appris depuis.
On a beaucoup appris. Effectivement, on sait évidemment pas tout, loin de là, de ces animaux, mais on commence à savoir de plus en plus de choses. Par exemple, vous l'avez dit, ce sont des plongeurs, des apnéistes hors pair, hein, parce qu'ils descendent vraiment à des profondeurs incroyables. Ils descendent jusqu'à quelle profondeur, ces cachalots?
Alors, on dit jusqu'à 3000 mètres, mais 2000, 3000 mètres. Il y a d'autres mammifères marins qui descendent très profond aussi. Hein. Les baleines à bec, les hyphus descendent aussi à 3000 mètres. Mais les cachalots restent une heure, parfois une heure et demie sous l'eau à chasser dans cette eau froide et noire.
Alors, ils chassent dans ces eaux froides et noires, comme vous dites, où on ne peut pas les suivre, évidemment, ils vont trop vite, et c'est l'obscurité absolue, et puis en plus, les pressions sont bien plus importantes qu'en surface, hein, 200 fois plus importantes, donc très dur d'y aller. Mais on peut quand même, justement, en les écoutant cliquer, essayer de deviner ce qui se trame dans ces abysses. Par exemple, ici, rien qu'au clic, on devine une scène de chasse.
Les clics s'accélèrent. Le cachalot a repéré une proie dans le faisceau de son écolocation. Les clics s'accélèrent encore. Et soudain, le silence. Le cachalot a attrapé sa proie. Les clics reprennent. Il repart en chasse.
Extrait du documentaire « Les géants des mers » diffusé sur Arte en juin dernier, qui vous mettait en scène justement avec ces cachalots, François Sarano.
Mettait en scène les cachalots.
Oui, mais vous plongiez avec, on vous voyait. Là, on est sûr, est-ce qu'on surinterprète ou on est sûr qu'il était en train de chasser ce cachalot?
Alors, les cachalots, parce que là, la phrase dit « le cachalot », en fait, il y a plusieurs cachalots qui chassent en même temps. Et notre ami le professeur Hervé Glotin, peut, en écoutant ça, en les enregistrant grâce à un système de triangulation des micros, retracer le trajet dans le volume du cachalot rien qu'en le positionnant par l'émission de ses clics et la différence de temps qui est nécessaire au clic pour venir à l'un des trois micros. Et il peut suivre très précisément comment le cachalot attrape sa proie. Oui, à un moment donné, il s'arrête de cliquer, il l'a trouvé, juste après qu'il l'ait très précisément localisé, les clics se sont intensifiés, et après cela s'arrête. Mmh. Et il ne reprend sa chasse qu'un peu plus tard.
Oui. Alors vous allez les observer, on l'a dit, au large de l'île Maurice, mais vous y allez et vous y retournez. C'est-à-dire que ces clans de cachalots que vous observez, vous finissez par les connaître, vous les reconnaissez.
Oui, on ne va plus plonger avec les cachalots. On va plonger avec Elliot, Arthur, Irène Gueule Tordue, Issa, Vanessa, Zoé.
Ce sont des vrais noms, hein. Vous les avez tous prénommés, il y en a 52 qui ont leur prénom.
60 aujourd'hui.
60, pardon, je retarde.
Non, on les a nommés parce que nous les reconnaissons. Et puis, je tiens beaucoup à ça. Chaque individu a une personnalité propre. Les nommer, c'est rendre compte de cette personnalité. C'est en aucun cas faire de l'anthropomorphisme. Il ne s'agit pas du tout d'essayer de les mettre sur un même pied d'égalité que nous. Ils sont différents. Il ne s'agit pas non plus de nous rabaisser à leur hauteur. Nous sommes différents. Mais c'est reconnaître qu'ils ne sont pas des objets. Et je trouve que lorsqu'on les numérote, lorsqu'on met, pour les caractériser, une information alphanumérique, c'est les chosifier. Mmh. Et ça, c'est grave. Parce que transformer le vivant en chose interchangeable, c'est juste ce qui fait que nous l'oublions et que nous allons le perdre définitivement.
Alors vous les reconnaissez grâce à des signes distinctifs, ils ont des bouts de nageoires mangés, ils ont certains signes particuliers qui fait que vraiment vous les reconnaissez, et chacun a un prénom. Est-ce que eux vous reconnaissent?
Oui, eux nous reconnaissent.
Comment vous le savez?
Et je vais vous raconter une histoire, parce que justement nous les reconnaissons, nous, grâce à des signes distinctifs. Mais pas toujours. Au départ, avec mon ami René Euzé, nous avions choisi deux cachalots qui se reconnaissent à 50-100 mètres. Parce que leur nageoire caudale a été mordue, déchiquetée, donc ils ont des cicatrices très remarquables. Arthur, un petit mâle, et Agatha, une petite femelle qui, toutes deux, sont très marquées. C'était les héros de notre film. Eh ben, c'est pas eux, les héros de notre film. Le héros, c'est Elliot, qui n'a aucune cicatrice apparente. Parce que son comportement, sa curiosité particulière, sa personnalité est si marquée qu'on la reconnaît tout de suite. Il y en a un qui fait le pitre. Allez, c'est Elliot. Il y en a un qui vient comme ça. C'est Elliot. Il y en a un qui... C'est encore Elliot. Ouais. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement leur morphologie qui est importante, ni les relations simplement qu'ils tissent entre eux, mais véritablement, chacun présente une personnalité suffisamment caractérisée pour qu'on la reconnaisse de loin.
On bivouac au milieu des cachalots avec le plongeur François Sarano cet après-midi. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. C'était Wakachina Monterosso sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Moby Dick, le cachalot blanc traqué pendant de longs mois, a enfin été aperçu, poursuivi et combattu par Akab et son équipage. À l'aube du deuxième jour de chasse, l'ardeur des hommes est à son paroxysme. Cette fois, c'est Moby Dick qui attaque le premier les trois baleinières. Il bataille avec fureur dans le fouillis des lignes des harpons plantés dans ses chairs. Les lobes de sa queue puissante font voler en éclats les pirogues de Stubb et de Flask. De son large front blanc, il envoie la baleinière d'Akab tournoyer dans les airs, puis s'enfuit comme satisfait de la besogne accomplie.
Extrait d'une fiction inspirée de Moby Dick de Herman Melville sur France Culture. François Sarano, votre livre qui paraîtra le 27 septembre chez Actes Sud s'intitule « Le retour de Moby Dick ». Il aurait aussi pu s'appeler « La grande réconciliation avec Moby Dick ». Votre but, c'est vraiment de changer de regard sur ce mammifère marin qu'on a considéré pendant très longtemps, mais il faut même remonter très très loin derrière, comme un tueur.
Oui, oui, mais je crois qu'aujourd'hui on vit un moment extraordinaire, unique au monde, particulier. C'est la première fois que on peut aller vivre dans leur monde, les voir, parce que Cousteau a inventé le scaphandre autonome, et parce que la chasse s'est arrêtée, et on peut se réconcilier parce qu'ils nous y invitent. Ce sont eux les maîtres du jeu. Mais comme vous le dites, le professeur Cassens a montré que dès le paléolithique, la fin du paléolithique, 6000 ans avant Jésus-Christ, en France, des hommes gravés sur les roches, des cachalots qu'ils devaient trouver extraordinaires. Ce devaient être les animaux les plus incroyables qu'ils voyaient devant eux, au large ou échoués. Oui. Et d'abord, on les a considérés un petit peu, donc probablement comme des dieux. En Nouvelle-Zélande, les Maoris considèrent le cachalot comme un dieu qui les a portés et qui leur a fait découvrir la Nouvelle-Zélande, s'installer en Nouvelle-Zélande. Donc il a été soit déifié, soit considéré comme un monstre dans l'océan qui était l'enfer au Moyen-Âge. Même les premiers chasseurs de baleines fuyaient les cachalots. Et pour s'en détourner, sans que lui les poursuive, ils jetaient des tonneaux à la mer pour détourner son attention.
Oui. Mais pour quelle raison cet animal là a été perçu comme un tueur, comme une bête redoutable, plus que les autres.
C'est quand même une sacrée bête, hein, quand c'est 40 tonnes qui sautent en l'air, hein, et qui rebondit dans une éclaboussure formidable. Et puis, il formait des troupes très denses. Les grands orquois, les baleines bleues, ne forment pas des rassemblements aussi importants. Lui, la famille, le clan, lorsqu'ils se rassemblent, tous ces clans, alors ça peut faire des troupes de plusieurs centaines. C'est très impressionnant, ces animaux, quand même. Ouais. Il faut le reconnaître.
Je veux bien vous croire. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'heure semble à l'apaisement. Il faut dire qu'on revient de loin. Témoignage d'un chasseur de baleines et de cachalots en 1958 sur la RTF.
Tous les ans, je pars depuis à la chasse aux baleines. En somme, vous passez vos vacances aux baleines.
Oh, toujours, toujours. Aux baleines, comme on disait dans le temps.
Aux baleines.
Oui, c'est ça.
Mais je crois que si votre premier contact avec la baleine a été avec des navires à canon harpon,
c'est ça.
Ce n'est pas ça qui vous intéresse tellement.
Non, ce qui est le plus intéressant, c'est la chasse que l'on pratique encore aux Açores et à Madère. C'est une chasse qui se fait dans des petites pirogues qu'on appelle des baleinières. Là-bas, on les appelle les canoas, qui ont 10 mètres à 11 mètres de long, qui sont donc très petites par rapport à la longueur de l'animal que l'on chasse, qui lui peut atteindre 18 mètres. Je ne dis pas que tous les cachalots ont 18 mètres, mais enfin, il y en a qui atteignent quand même 18 mètres.
Bref, avec cette chasse, vous rejoignez la légende.
Oui, c'est l'histoire de Moby Dick dans l'époque actuelle.
L'émission s'intitulait « Le magazine des explorateurs » sur la RTF. On imagine que c'était un peu le temps d'un bivouac de l'époque. Et on parlait de façon tout à fait décomplexée de ce massacre des baleines et des cachalots comme un sport, comme un passe-temps, comme une passion. François Sarano.
J'en suis un peu sans voix. Mais comment peut-on harponner un animal aussi doux, aussi délicat, aussi curieux qu'un cachalot? Le cachalot, c'est vraiment, comme je le dis souvent, 50 tonnes de délicatesse et de tendresse. Ils passent leur temps à se caresser. Le premier qui a fait attention à eux a dû s'en rendre compte. Comment on pouvait tirer dans ces animaux? C'est pas possible.
Et alors ce monsieur et les autres chasseurs de baleines ont bien travaillé, puisque en un siècle, hein, il y avait 300 000 baleines bleues il y a un siècle. Maintenant, il n'y en a plus que 10 000 aujourd'hui. Hein, ce sont à peu près les chiffres.
Oui.
Pour le cachalot, on en est où?
Les estimations, c'était un petit peu plus d'un million avant la grande chasse. 300 000 aujourd'hui. Et ce qui est important de savoir, c'est que bien que la chasse soit arrêtée depuis les années 80, depuis 1980 dans l'océan Indien, un peu plus tard en Atlantique, 87, on continuait la chasse aux Açores, eh bien, les populations ont beaucoup de mal à se reconstituer. On espérait que rapidement, année après année, le cachalot retrouverait son jardin, le repeuplerait complètement. Ouais. Et malheureusement, une étude vient de tomber par deux très grands cétologues, Shane Gero et Al Whitehead, le pape de l'étude des cachalots, qui viennent de montrer que, dans les Caraïbes au moins, la population qu'ils étudient, non seulement n'a pas augmenté au cours des dernières années, mais a régressé de 3,5% par an au cours des 10 dernières années.
Et comment on l'explique ça alors? Puisqu'on ne les chasse plus. Hein, alors,
comment on l'explique? Plusieurs façons. D'abord, les cachalots sont souvent victimes de collisions avec des bateaux qui vont trop vite pour eux. Ils les entendent, mais c'est trop tard. Même en Méditerranée, mon ami Denis Audi, qui les étudie régulièrement, voit des cachalots qui sont lacérés par les hélices de bateaux et beaucoup sont tués simplement parce que les traves du bateau les déchiquettent. Il y a aussi un problème beaucoup plus important qui est celui de la pollution en général. Pollution par les sacs plastiques. Il faut savoir que l'année dernière, 39 cachalots se sont échoués sur les côtes européennes. On a fait une autopsie d'une vingtaine d'entre eux. La moitié avaient des estomacs qui étaient pleins de plastique, de bâches plastiques. Vous savez, ces grandes bâches qui recouvrent les tomates dans les serres. Il y en a un, il y avait une bâche de 18 mètres. Ça ne facilite pas la digestion.
Non.
Et autre chose plus grave, c'est la pollution chimique, les métaux lourds, les pesticides qui se concentrent dans la graisse des cachalots. Et que se passe-t-il? Les femelles remobilisent cette graisse lorsqu'elles vont faire du lait pour allaiter leurs petits, ce qui fait que tout ce qu'elles ont accumulé, elles le transmettent directement à leur nouveau-né. Et lui ne supporte pas cet empoisonnement chimique. Un petit peu comme à Minamata, lorsque les enfants naissaient, ils étaient complètement déformés ou même mouraient. Donc il est probable que la mortalité infantile soit beaucoup plus importante qu'autrefois.
Alors ça c'est un problème parce que ce sera plus difficile à régler que simplement stopper la chasse, hein, ça on a su le faire, mais par contre dépolluer d'un coup les océans, on n'est pas prêt d'y arriver.
Et c'est nous qui sommes aussi menacés. Comment dire? Si les cachalots sont menacés, l'ensemble des grands animaux qui sont en haut de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire sont menacés. Parce qu'ils concentrent tous ces polluants. Nous-mêmes, nous les concentrons. Et peut-être que certaines de nos maladies sont liées à ces pesticides, à ces métaux lourds, à tout ce que nous emmagasinons.
Alors, pour nous donner envie de les protéger et d'en prendre un peu plus soin de ces cachalots, parfois, mieux vaut une belle rencontre qu'un beau discours. Vous nous parliez tout à l'heure de ce jeune mâle, Elliot, ce cachalot particulièrement curieux. Vous dites que c'est le Marco Polo des cachalots. Il vient à l'aventure, il vient à la rencontre, il veut savoir qui vous êtes. Et il y a eu plusieurs scènes, mais dont une filmée, où vous êtes retrouvé à nager, mais c'est plus qu'une nage. Vous avez dansé avec ce cachalot, François Sarano.
Alors, formidable. Oui, effectivement, c'est très régulièrement qu'ils viennent nous voir. Et ce jour-là, j'étais à l'eau avec mon ami René Euzet pour le film de Guillaume Vincent, Les Géants, La Planète des Géants. Et nous étions à l'eau. Voilà, René était près de Elliot, qui tout d'un coup s'est arrêté et s'est mis à la verticale. Et nous a véritablement appelé. Et je dis ça parce que il a l'océan pour lui, ce cachalot. Hein. Il peut faire ce qu'il veut. Et un animal qui n'est pas bien, il s'en va. Nous sommes des points fixes. On ne nage pas à la vitesse d'un cachalot, bien entendu. Il s'est arrêté et puis il est venu vers moi, face à face. Et il a commencé à m'interpeller.
Il vous scanne.
Là,
avec ses
clics. C'est plus qu'un scan. Là, c'est une expression sonore qu'on appelle une coda et qui, lorsqu'on la compare à ces codas qui sont émises par d'autres cachalots, cela veut dire en général « viens ». J'ai envie d'un contact physique. En tout cas, c'est ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié la signification. Au moins, on a mis ça en comparaison avec des comportements. Et donc, ce cachalot, Elliot, est venu me chercher, s'est mis en face de moi et s'est mis à tourner sur lui-même. J'ai répondu en tournant sur moi-même et il a lui aussi à son tour répondu à cet appel. Et pendant 6 minutes, c'est très 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 long, 6 minutes dans l'eau avec un cachalot qui vous invite, qui vous attend, qui est là, qui stoppe son mouvement. Entre René qui filme et moi, il y avait juste la place. Il tourne à une vitesse prodigieuse sans jamais
vous toucher,
ni René, ni m'effleurer. Ouais. Et son invite était incroyable.
Je précise que les sons qu'on entend derrière nous, c'est les sons précisément de cette rencontre.
Hein, c'est les sons de cette rencontre. Ouais. Tout est authentique. Il y a pas de, on ne refait pas des sons après. Hein. Ce qu'il y a de formidable, encore une fois, c'est que c'est à sa demande, à son invite. C'est lui le curieux. C'est lui qui tente là de nous apprivoiser. C'est exactement le renard du Petit Prince. C'est le renard qui dit au Petit Prince, apprivoise-moi. C'est lui qui vient. C'est ça, la nature originelle. Arrêtons de montrer la nature comme une seule, seul lieu de prédation, où tout se règle comme ça. Pas du tout. Il y a beaucoup de moments où les espèces interréagissent en bon entendement.
Et vous vous interdisez de le toucher. À un moment, il semble avoir envie que vous lui caressiez le ventre. On pourrait interpréter son comportement comme celui-là. Et vous refusez à le faire.
Voilà. Alors, je suis presque sûr qu'il demande. Ils aiment beaucoup se caresser, les cachalots. Là, nous avons une règle avec Vitry, René Euzé, avec toute l'équipe. On ne touche pas, on ne caresse pas. Nous ne voulons pas transgresser cette règle parce qu'après, nous ne voudrions pas qu'il y ait un malentendu et que tout d'un coup nous considérions ces animaux comme nos jouets et qu'ils soient notre merci, notre, moi, un petit peu à notre demande. Pas du tout. C'est nous, j'insiste là-dessus, c'est nous qui sommes à leur merci, c'est eux qui guident la danse, c'est eux qui nous interpellent et c'est pour ça que nous nous permettons de nous mettre à l'eau avec eux. S'il n'y avait pas d'invite, nous n'irions pas.
On poursuit notre rencontre avec les cachalots de façon respectueuse en compagnie de François Sarano, le temps d'un bivouac sur France Inter.
When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of
Damon Albarn qui chantait Heavy Seas of Love sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Souffle, souffle, juste sous le nuage. Il y en a un deuxième là, il y en a un deuxième là.
La mine, là, devant. Juste 5 degrés sur tribord.
Ouais.
Tu les vois là? Juste devant. Ok, il y en a deux, hein.
Attends, ça souffle là.
Oh, il y en a un autre là.
On va essayer de partir. Attends.
Là, regarde le dos. 2, 3.
Attends, je vais.
Allez.
Voilà, ça souffle.
Là. C'est bon.
Attends, je vais plonger.
Ok. Bon là.
Là, c'est bon.
Ils sont 3. Il y a un troisième qui vient de remonter là. 4. Il y a un quatrième qui vient de refaire surface.
Un nouvel extrait des Géants des Mers diffusé sur Arte. Ce qui est passionnant à vous entendre, rien qu'à vous entendre, François Sarano, dans cet extrait, c'est que vous plongez depuis des décennies maintenant, vous l'avez fait avec le commandant Cousteau, et on a l'impression que c'est toujours la première fois, qu'il y a toujours cet enthousiasme quand vous les retrouvez, ces cachalots.
Non, je crois qu'il est plus grand aujourd'hui,
oui.
Parce que vraiment, ce monde est merveilleux, c'est notre dernier territoire sauvage, c'est le dernier endroit où on peut rencontrer des animaux libres, indomptés, sans qu'ils vous fuient. Et si vous êtes respectueux, ils vont vous inviter à partager leur monde. Mmh. On ne peut plus faire ça à Terre, c'est très important. Il faut préserver ce monde parce que c'est notre dernier endroit libre.
Alors ces animaux sont apparus relativement récemment dans l'histoire de l'évolution. Autant des dinosaures, on ne croisait pas de cétacés, d'aucun type, hein, pas de cachalots, pas de baleines. Les ancêtres des cétacés non plus n'occupaient pas les océans. Les ancêtres des cétacés, ils avaient quatre pattes et ils étaient sur la terre ferme.
Voilà, il y a 55 millions d'années, Pachycetus, qui avait à peu près la taille d'une petite gazelle de Savoie, était carnivore et courait sur les plages. C'est le moment d'un grand réchauffement climatique, sécheresse, régression, enfin bon. Et ces animaux vont peu à peu aller dans l'eau. Et puis, alors qu'ils n'avaient aucune chance de réussir, ces animaux qui vivaient à terre, qui se cachaient dans les terriers, ils ont conquis l'ensemble des eaux de la planète, de l'Arctique à l'Antarctique. Et les grandes profondeurs, les cétacés, les baleines, les dauphins, les cachalots, les orques, les belugas, ont conquis le monde parce que ils ont amené plusieurs choses dans cet océan qui était peuplé de poissons et de reptiles. Ils ont amené la tendresse et la structure sociale. Ils ont amené tout ce qui touche à l'attention à l'autre. Et ça, c'est très important.
Alors, cette socialisation, c'est précisément le cœur de vos études. Quand vous allez régulièrement voir ces cachalots, toujours les mêmes, qui sont au large de l'île Maurice, forcément, on l'a dit, vous les reconnaissez, chacun a un prénom, vous les voyez grandir, vous les voyez évoluer, vous savez comment ils interagissent les uns avec les autres.
Voilà. Au premier abord, c'est pas si facile. Donc, nous attribuons des notes à la force de la relation. Un allaitement, ça vaut 6. Deux cachalots qui sont ensemble et se caressent, ça vaut 5. Plusieurs cachalots, ça vaut 4, etc. Jusqu'à ce que on arrive à 1. Ce sont des cachalots qu'on voit le même jour et dispersés.
Mais quand vous dites ils se caressent, vraiment, ils se font des câlins, ces cachalots?
Ah oui. Vraiment. Et des vrais câlins. Et entre femelles, des vrais câlins. Il y a, donc, c'est des, un petit peu comme chez les bonobos, des caresses sexuelles très marquées entre femelles adultes et aussi d'autres caresses qui sont de simples frottements des corps. Mais ils passent beaucoup de temps à se caresser. Beaucoup de temps. Il y a peu d'animaux marins qui passent autant de temps à se caresser. Mmh. Les dauphins passent beaucoup de temps à copuler, mais ils ne font pas ça, comment dire? C'est pas du tout la même chose. Là, ils se regroupent, ils se frottent. Vous avez l'impression qu'ils dansent, qu'ils volent et qu'ils tout d'un coup reviennent les uns vers les autres. C'est d'une immense tendresse.
Ouais. On observe, alors, plus chez les baleines, mais on observe aussi l'éducation du petit. Hein. On lui apprend, la baleine se met au-dessus du petit pour lui apprendre la flottaison. On a vraiment des comportements très maternels qu'on observe chez les mammifères.
Oui, alors comportement maternel et mammifères. Chez les baleines, c'est le couple mère petit. Hein. Ouais. Chez les cachalots, c'est la société qui s'occupe du petit. Pourquoi? Ça a été un peu imposé par le milieu que les cachalots ont conquis. Ils vont chasser à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et la mère est obligée d'abandonner son nouveau-né en surface, dans un endroit où il n'y a nulle part où se cacher, nulle part où se poser. Et donc, il est à la merci des prédateurs. Donc, si elle l'abandonne pour 20 minutes, une heure, elle est obligée de le laisser dans les bras d'une autre. Et c'est pour ça que chez les cachalots, il y a des nounous. Et dans notre petit groupe à nous, je dis notre groupe aussi, j'en faisais partie. Oui. C'est Germine qui joue le rôle de la nounou. C'est une très jeune femelle. L'année dernière, elle s'occupait d'une toute petite femelle baptisée Miss Toutou. Et cette année, elle s'occupait d'un petit mâle, Baptiste, qu'on a vu naître. Et elle délaissait un petit peu Miss Toutou. Mais elle s'occupe très régulièrement de ses nouveau-nés. Elle joue le rôle de la nourrice qui prend la charge du petit, le protège et l'allaite lorsque la mère n'est pas là. Et c'est quelque chose de formidable. Oui. Et ça permet ainsi au cachalot de pouvoir vivre dans ce milieu, encore une fois, qui est si dur que le grand large.
Vous observez aussi des vrais comportements, c'en est un celui-ci, mais d'autres, de solidarité. On sent vraiment qu'il y a un effet de groupe.
Toujours. Je me demande même si le cachalot est un individu ou un être typiquement social. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de cachalot. Et les grands mâles peuvent être un peu solitaires. Mais dans les groupes femelles immatures, on sent que l'importance du groupe prévaut sur l'individu. On a même vu, et c'est rare de voir les attaques de prédateurs sur les cachalots, les orques, on a vu des cachalots se sacrifier, non pas pour leur nouveau-né, ce qui est assez banal, mais pour d'autres cachalots adultes qui n'étaient pas de la même famille, sortir de la protection du groupe, aller au-devant de la mort pour aider l'animal. Hein, ils se sont sacrifiés, ouais. Les orques les ont tués à leur tour.
Ah oui.
Et c'est pas banal, hein, les autres animaux auraient fui.
Oui. Non, là, ils se sont sacrifiés pour le groupe, pour les plus jeunes du groupe.
Je pense qu'ils n'ont pas eu l'intention de se sacrifier, oui, mais ils n'ont pas réussi. Et pourtant, ils se sont mis délibérément en danger. Ils sont sortis de la protection du groupe pour aller chercher celui qui avait été isolé et qui était en danger.
Alors cette socialisation, elle passe aussi par la communication. Ils communiquent beaucoup entre eux, vous nous l'avez dit, avec ces clics. Et comme vous observez différents clans, est-ce que vous avez constaté des dialectes? Est-ce qu'ils parlent tous la même langue?
Alors, entre les clans des cachalots de l'île Maurice, je ne sais pas s'il y a des dialectes. Une chose est sûre, ouais. C'est que nous avons montré que les cachalots qui vivent à l'ouest de l'île Maurice ont un dialecte suffisamment différent de tous les autres qu'on peut presque parler de langue. Les autres cachalots du monde ont des expressions sonores qui tournent autour de 5 clics. Nous, c'est 8 clics. Mmh. Totalement différents. 8, 9 clics, des expressions sonores très longues. Mmh. Et dans le reste du monde, on est donc sur d'autres types d'expressions. Et c'est le thème de nos recherches avec Longitude 180, l'association qui...
Ces clics, on ne l'a pas dit, mais c'est ultra puissant. Le cachalot produit le son le plus intense qui existe parmi les animaux.
Oui, alors il le module. Quand il s'exprime ou qu'il nous scanne, le son est plus pénétrant et donc moins puissant. Hein, il arrive à varier l'intensité et aussi la fréquence. Mais quand effectivement ils sont dans les profondeurs et qu'on entend les clics, on les entend à des fois 20 kilomètres. Ouais. 20 kilomètres.
On est quand même loin du monde du silence dont parlait le commandant Cousteau. Hein.
Oui, mais ce monde du silence, c'est lui qui a ouvert toutes les portes. Alors vraiment, c'est trop formidable pour que je dise oui, non, c'est vrai que c'est pas silencieux.
C'est pas silencieux. Pour profiter du silence, mieux vaut marcher. C'est le moment de retrouver Sven Ortoli, rédacteur en chef du hors-série de Philosophie Magazine, Marcher avec les philosophes, dont le temps d'un bivouac est partenaire.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ?
Bonjour Sven.
Bonjour.
Donc penser à la marche, en tout cas à la marche dans la nature, c'est penser quasi naturellement au silence pour vous.
Oui, parce que quand nous parlons de silence, c'est un petit peu comme le monde du silence qu'on évoquait, qui n'est pas silencieux, évidemment. Et donc les bruits, ce qui différencie aussi bien les bruits de la mer que les bruits que nous rencontrons en forêt, en montagne, c'est une sorte de bruit que nous rencontrons lorsque nous nous promenons et qui a vraiment rien à voir ou très peu avec le silence de Pascal, le silence de l'espace infini ou le silence d'Alien qui précise que dans l'espace, on ne nous entend jamais crier, ce qui est vrai d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il y a le vide, donc le son ne se propage pas. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de silence? Il y a des endroits vraiment silencieux dans le monde?
Oui, d'abord dans les labos, il y a des chambres anéchoïques où on parvient, puisque j'ai regardé un peu ça, à des bruits de l'ordre de 12 décibels, ce qui est très 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 peu. La baleine dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est 180, 190 au maximum. Enfin, c'est
l'ordre de grandeur, François Sarano, vous confirmez l'intensité?
Oui. Mais dans la nature, l'endroit le plus silencieux du monde est réputé être sur l'Antarctique. On arrive à 22 décibels, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un chuchotement. Alors je vous rappelle que les décibels, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que quand vous ajoutez 3 décibels, pardonnez-moi, vous multipliez l'intensité par 2. Donc dès qu'on ajoute un petit peu, c'est énorme. Et il y a un écologiste, un acousticien qui a, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, qui font des calculs amusants, parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont des grands défenseurs de la nature, qui a essayé de regarder combien il y avait de régions aux États-Unis qui étaient à l'abri du bruit, en quelque sorte. C'est-à-dire susceptibles, il y a une définition, de ne pas être perturbées par un bruit artificiel durant au moins 15 minutes. Et il en a trouvé 12.
Ah oui.
C'est-à-dire pas de bruit artificiel, c'est-à-dire pas d'avion, pas un train dans le lointain, etc., etc.
Donc les lieux ont une qualité de silence en quelque sorte qui leur est propre, c'est ce que vous nous dites.
Oui, c'est très précisément ça. C'est tellement vrai d'ailleurs que si vous approchez, si vous marchez dans un bois de pins, ou vous marchez dans un bois de hêtres, ou vous marchez dans la neige fraîchement tombée qui absorbe les sons, c'est le côté ouaté de cette neige, que vous avez à chaque fois des paysages sonores autant que visuels. Et il y a quelqu'un, c'est Camus, qui en a merveilleusement parlé comme souvent dans l'été, ou dans les noces, dans l'été, je pense. Il dit, écoutez ça, il décrit Djemila, il y régnait en Algérie un grand silence lourd et sans fêlure, quelque chose comme l'équilibre d'une balance, des cris d'oiseaux, le son feutré de la flûte à 3 trous, un piétinement de chèvres, des rumeurs venues du ciel, autant de bruits qui faisaient le silence et la désolation de ces lieux.
Des bruits qui faisaient le silence, c'est magnifique.
Oui, c'est surtout très juste. Il suffit de s'éloigner de la ville, de prendre un sentier, et c'est ça qu'on recherche évidemment quand on va marcher. Aujourd'hui, je ne parle pas des marches en ville, et j'écarte les marches au bord des autoroutes, ça arrive, mais c'est autre chose. Oui. C'est une démarche sociologique. Là, vous allez essayer de retrouver une relation au monde, quelque chose qui vous permet de vous sentir autre et de vous sentir en relation avec un univers qui est bien plus vaste que celui auquel vous avez l'habitude. Mmh. Ce qui fait que Stevenson, qui était un très bon marcheur, avait remarqué, et je pense que c'est une... Il avait remarqué que pendant la nuit, il y a un moment, vers 2h du matin, où les gens qui sont en balade, enfin qui étaient en balade et qui se reposent, se réveillent et s'aperçoivent qu'il y a un espèce de moment magique où le coq chante, à ce moment-là, il se rendort ensuite, où les êtres bougent. Il raconte ça comme ça, c'est absolument magnifique. C'est un moment en phase avec le cosmos.
On imagine qu'il vaut mieux être seul pour goûter ce lien en phase avec le cosmos.
Bah, écoutez, il vaut mieux être seul avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, ou avec quelqu'un qui est très silencieux. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand vous marchez, vous rencontrez forcément des marcheurs. Et Thoreau, que le philosophe américain, que je cite volontiers, oui, qui est le philosophe de la marche, que je recommanderais à chaque fois, dit très joliment, un peu avec un peu de cynisme, que l'homme que je rencontre m'apprend souvent moins que le silence qu'il brise. Et il est quand même pas totalement cynique, puisqu'il dit souvent, il dit pas toujours.
Ah oui, on le note. Pour approfondir la question, on peut lire le hors-série de Philosophie Magazine, Marcher avec les philosophes. Merci Sven Ortoli, et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
François Sarano, le plongeur que vous êtes, est-il aussi un marcheur?
J'écris en marchant.
Vous écrivez en marchant? Comment
oui,
vous faites ça?
J'ai un carnet dans ma poche, et je me perds. Je pars, je me perds. Et effectivement, le silence ouvre tous les sens. Parce que lorsque on est débarrassé des bruits de la route et tout ça, on perçoit avec son corps tout ce qui nous entoure. On entend mieux le détail de l'oiseau, la fauvette. On marche mieux, on sent mieux l'air, on goûte mieux les odeurs. Moi qui n'ai pas un grand odorat, tout d'un coup les parfums viennent. On se débarrasse des bruits parasites et on renaît. Je pense que la marche fait renaître. Et tout d'un coup, votre esprit est clair, lumineux, il holistique. On arrive à avoir une présence globale. Enfin, tout cela est mal dit, mais je le ressens comme ça. Et cela permet de ressentir ce qu'on a vécu auprès des cachalots ou d'autres qu'on aime. Partager, c'est pas mal.
C'était très bien dit, hein, je vous rassure, François Sarano. Suite et fin de notre discussion sur les cachalots avec François Sarano. Et puis, vous nous donnerez aussi quelques nouvelles des requins que vous partez observer régulièrement. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac. C'était The Camp, PJ Harvey sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Café à trésor.
Qu'est-ce que tu as trouvé?
Regarde ça. Il y a un cachalot qui s'est complètement lâché.
C'est vraiment. On était dedans et là, regarde ça.
Sous les becs de calmar, je suis allé les ramasser un à un. Et écoute, c'est du tonnerre.
Ah, magnifique.
Regarde ça.
Et puis, t'avais le nuage. Tu vas commencer avec le nuage. Et alors, hop,
à la collecte.
Hop, à la collecte. C'est drôle parce que ça flotte. Puis, tu sais, ça descend doucement. Alors, t'es derrière. Hop. C'était super. Voilà.
François Sarano remontant d'une plongée avec des trésors plein les mains. C'était quoi ces trésors? Alors vous étiez encore une fois avec les cachalots, vous ramenez dans votre main des sortes de petites choses noires. Qu'est-ce que c'était?
Les becs des calmars que les cachalots mangent dans les grands fonds. C'est les seuls témoignages en gros qu'ils nous ramènent, hein, parce que les becs de calmars sont formés de cornes qui sont se digèrent pas et que l'on retrouve dans leurs excréments et qui permet de savoir quelle quantité et puis surtout quelles espèces ces cachalots vont trouver dans les grands fonds. Des espèces dont probablement nous ignorons le nom.
D'accord.
Nous ne les avons jamais vues. Nous ne les verrons peut-être jamais. Il y a tant de mystères.
Oui.
Il y a tant de mystères dans l'océan.
Ce qui explique que vous soyez tout fou à l'idée d'aller picorer ces becs de calmar dans leurs excréments. Hein, parce que c'est ça.
Voilà.
Ils se sont soulagés devant vous et vous ne vous êtes pas offusqués. Au contraire,
non.
Vous en avez fait votre miel, on pourrait dire. Marie vous demande par Internet, il y a d'autres cétacés qui utilisent leur intelligence collective?
Oh, bien entendu. Les orques, formidables. Les orques aussi sont des sociétés matriarcales, comme les cachalots, très soudés, qui sont d'une intelligence, je dis intelligence, intentionnellement. Pas notre intelligence, leur intelligence. C'est ça qui est important. Ne comparons pas leur et notre intelligence, mais très intelligent, et qui arrive à faire des choses ensemble, coordonnées, d'une complexité extrême. Toujours au profit de la communauté. Merci. Tirons-en des belles leçons.
Il y a de quoi s'inspirer. Fanny vous demande, alors c'est une très jolie question, comment, ça a l'air de rien, mais comment dort un cachalot? Parce qu'effectivement, sa respiration est volontaire. Hein. Donc, s'il s'endort complètement, il arrête de respirer. Comment il fait pour s'en sortir?
La moitié du cerveau en éveil, la moitié du cerveau en sommeil. Et le petit matin, lorsque nous nous mettons à l'eau souvent, on ne voit rien en surface. Des fois, une narine qui émerge, et là, nous nous mettons à l'eau. Et nous arrivons dans le dortoir des cachalots. 15 cachalots, droits, verticaux, comme des menhirs suspendus dans le ciel, et qui nous laissent approcher parce que nous sommes des amis respectueux. Et ils sont là, ils balancent légèrement à 15 mètres sous la surface. Ouais. Et ils dorment.
Ils dorment à la verticale.
Ils dorment à la verticale, le plus souvent tête en haut, très rarement tête en bas. Et puis de temps en temps, au bout d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes, ils montent, respirent en surface, ne laissent apparaître que leurs narines, prennent une bonne inspiration et redescendent somnolés.
Un mot sur vos prochaines expéditions, explorations. On sait aussi que vous avez plongé avec ce requin blanc. Hein. Aucun des animaux marins, finalement, que vous avez côtoyé ne vous a inspiré de crainte. Hein.
Mais aucune raison que nous ayons...
Même le requin blanc.
Mais même le requin blanc. Le requin blanc est un des requins les plus timides. L'important, c'est essayer de comprendre leur monde. Et à partir du moment où on a leur code, on peut établir une interaction pacifique. C'est parce que l'on ne connaît pas leur code, qu'on ne connaît pas leur langage, entre guillemets, leur compréhension du monde, que nos interactions sont des interactions qui sont dures et qui sont parfois dangereuses, mortelles pour nous. Voilà.
Alors, lors de vos nombreuses expéditions en mer, François Sarano, vous avez dû croiser des porte-conteneurs. Il y en a même certains qui, des fois, percutent ces cétacés et leur font du mal. Nous allons monter à bord de l'un d'entre eux avec une artiste, peintre, écrivaine. Bonjour, Emeline Landon.
Bonjour.
On va voir dans la suite de cette émission ce qui vous a donné envie de monter à bord de l'un de ces porte-conteneurs pour effectuer un tour du monde de 40 000 kilomètres pendant 3 mois. Vous allez nous raconter cette expérience et puis plus généralement comment le voyage, les moyens de transport et les lieux de transit vous inspirent. François Sarano, un grand merci à vous. Très prochainement paraîtra donc votre livre chez Actes Sud, Le Retour de Moby Dick. Merci et bon retour.
Merci beaucoup.